bonjour. J'ai dégagé mon fil. Voilà. Je vais encore prier. Seigneur, on te demande ce matin de nous visiter, que tu puisses parler à nos cœurs, répondre à nos besoins, à nos interrogations, à nos besoins aussi d'être corrigés, repris dans nos façons de penser. Comme Aline nous l'a rappelé, que nous puissions être encouragés et défiés par ta parole, Seigneur. C'est ce que nous te demandons et nous savons que c'est ce que tu veux et sais faire par ton esprit dans nos vies, Seigneur. Alors merci pour ces moments. Amen. J'aimerais aborder un sujet qui est très vaste ce matin, mais on va en voir quelques bouts. C'est le pouvoir et l'irréalité de la peur. Hein ? La peur, c'est quelque chose qu'on connaît tous, de certaines façons. Hein ? Et je voudrais dire, déjà, pour éliminer certaines choses, il y a une forme de peur qui est issue du bon sens, de la sagesse. Hein ? C'est la peur d'un danger réel et immédiat. Hein ? Voilà. Je suis en train de marcher et puis il y a un gros rocher qui est en train de basculer au-dessus de moi. J'ai peur et je pars en courant, c'est normal. Hein. Je suis en train de grimper comme ça nous a été dit et je m'aperçois que ma corde est à moitié coupée et j'ai peur de tomber et c'est normal. D'accord ? Donc dans ce sens-là, la peur, excusez-moi, la peur, elle est pour nous exactement comme le sentiment de la douleur transmise par les nerfs pour protéger notre corps. Hein. On sait que les gens qui, à cause de diverses maladies, perdent la capacité à avoir mal, bah, ils se détruisent tout seuls sans faire attention. Quoi. Ils peuvent se brûler et puis ils coupent le pain et puis ils sont coupés deux doigts et puis ils se cognent, ils ne s'en sentent pas compte. Donc la douleur qui est désagréable, mais elle a une fonction de nous avertir qui est justifiée. Je vais y arriver. Mais la peur, c'est pareil. Donc, il y a une peur pour un danger réel, immédiat, visible, maintenant. Et celle-là, il vaut mieux la voir parce que bah, quand on ne l'a pas, c'est pareil. On peut ne pas venir très vieux. Hein ? Après, on a tous des appréhensions différentes sur ces choses-là, mais je veux écarter celui-là. Ensuite, il y a les peurs qui nous ont été transmises. Et ça, c'est quelque chose d'intéressant. Je repensais à un exemple tout simple. Encore aujourd'hui, on fait peur aux enfants avec les loups. Hein ? Le loup va venir te manger. J'aimerais savoir qui connaît quelqu'un, qui connaît quelqu'un, qui connaît quelqu'un à qui un loup a fait du mal. Puis ben, j'ai cherché sur les réseaux sociaux, sur Internet... Je ne connais pas d'être humain dans les 100 dernières années, où ça ne s'est pas reporté, à qui un loup ait fait du mal. Quoi, hein ? Pourtant, quand on parle des loups, les gens ont peur. Enfin, pas tout le monde aujourd'hui, de moins en moins, mais la peur du loup. Hein ? Tout ça parce qu'il y a quelques centaines d'années, selon les pays, mais enfin, en tout cas pour parler de l'Europe, il y avait effectivement des périodes très froides avec des famines où les loups s'approchaient des villages et puis bah, déjà consommaient le gibier, le bétail s'y en avait, et il y a eu quelques histoires malheureuses d'enfants mangés par les loups, ou peut-être de voyageurs isolés, tombés, et puis attaqués par les loups, etc. etc. quoi. Et ben, voilà, c'est resté, ça s'est transmis, on en a fait des histoires, et des centaines d'années après, on a peur du loup. Alors que si, j'ai pas eu le temps de ce matin, je pensais à ça, juste de préparer un PowerPoint, mais si je vous avais montré, je sais pas, une bouteille d'alcool. Personne n'a peur en voyant une bouteille d'alcool. Mais l'alcool tue énormément de gens chaque année. Hein. On n'a pas peur quand on voit une voiture, mais la voiture tue énormément de gens. Donc, il y a ces peurs irrationnelles qui nous sont transmises parce qu'à un moment, quelque chose a été percuté dans la vie de certaines personnes. Donc là, c'était une peur réelle. Hein. Ceux qui, à l'époque, ont eu un membre de leur famille mangé par les loups, ils avaient peur des loups, on comprend. Et puis ça s'est transmis, puis ben, la peur est toujours là, hein, mais il n'y a plus la cause réelle. Hein. Alors j'ai pris cet exemple-là parce que c'était facile. Et, mais je pense qu'on a tous, dans nos parcours familiaux, dans nos histoires, déjà bon, culturellement, mais aussi dans l'histoire de nos familles, des choses dont on a peur, dont nos parents avaient peur, dont nos grands-parents avaient peur, et on se transmet cette peur de génération en génération. Et c'est une chose qui est pas bonne, et on va aborder après ce que justement la parole de Dieu nous propose pour essayer de sortir du contrôle et de l'irrationalité de la peur. Hein. Et puis, il y a les peurs que nous nous sommes, je ne veux pas dire fabriquées, mais qui se sont accrochées à nous, on va dire ça comme ça, depuis notre naissance. Donc là, c'est des choses qui nous sont arrivées, et puis qui font que maintenant, on a certaines peurs. Et je ne parle même pas des cas, ce qui existe bien sûr, et c'est assez fréquent, qu'on appelle des phobies, où c'est vraiment une peur qui est poussée à un point où ça paralyse totalement le comportement. Il y a des gens qui ne peuvent plus se retrouver dans un lieu public avec du monde. C'est agoraphobe, et puis c'est plein de choses comme ça, ou des peurs des araignées, ou de je ne sais pas trop quoi. Mais en général, il y a une histoire. Moi, je connaissais quelqu'un dans ma famille qui a été bêtement, c'est le mot, alors qu'il était petit, jeté à l'eau par un autre membre de sa famille, soi-disant, pour lui apprendre à nager. Puis, il a failli se noyer. Et depuis, cette personne a une peur panique de l'eau. Et donc là, on le sait. Mais il y a beaucoup de choses voilà, qui nous ont accompagnés, qui font qu'on a des peurs et qu'on est tous différents. Et là, encore une fois, ce qui est compliqué, c'est que ce qui peut terroriser quelqu'un ne nous touche pas, puisqu'il nous fait peur à nous, ne fait pas peur à l'autre. Et donc, il y a toujours ce rapport les uns aux autres qui fait « il a peur de ça !» Puis nous, on est terrorisés par autre chose, peut-être aussi irrationnelle ou encore plus ridicule, mais à nous, ça nous fait peur. La peur est une réalité totalement subjective, et c'est pour ça qu'on ne peut pas dire à quelqu'un « mais t'as pas de raison d'avoir peur ». Non, si j'ai peur, j'ai peur. Si quelqu'un a peur, il a peur. Ça ne veut pas dire que c'est justifié, ça ne veut pas dire que c'est irrémédiable, ça ne veut pas dire que c'est bien, mais le fait que quelque chose ne nous fasse pas peur à nous ne veut pas dire que ça fait pas peur à quelqu'un d'autre, ni même que c'est pas dangereux, parce qu'il y a aussi des choses qu'on fait qui sont dangereuses, mais qui à nous nous font pas peur, puis qui terroriseraient d'autres personnes. Je pense à des gens qui font des descentes en ski, ou s'ils ratent un virage en bas, ils sont morts. Ils font, ils sont pas peur, puis nous on les voit faire et on est mort de peur. C'est complètement irrationnel, mais on est comme ça. Et puis, la peur est une chose vivante. C'est drôle à dire, mais la peur est vivante, la peur se nourrit, la peur se reproduit et la peur grandit. Heureusement, comme tout ce qui est vivant peut mourir, les peurs peuvent mourir aussi. Mais ce qui est terrible, c'est que c'est toujours le principe soit des cercles vertueux, soit des cercles vicieux. La peur se nourrit de la peur. Et donc quand quelqu'un est craintif et qu'il commence à avoir peur, ces craintes alimentent sa peur et la peur grandit et elle a faim et elle est alimentée par d'autres craintes. Et c'est comme ça qu'on peut arriver à être totalement paralysé dans des domaines de nos vies. Parce que la peur, même essentiellement la peur irrationnelle, elle se nourrit, elle grandit, elle s'alimente de beaucoup de choses. Et puis bien sûr, il y a tout ce qui est lié, et c'est peut-être le point le plus fort, les peurs relationnelles. Dans nos relations, on a peur. Alors j'aimerais maintenant me revenir avant de développer un peu le reste et puis de voir à ce que la Bible nous dit. Déjà, on voit que la peur commence dans le jardin d'Éden à partir du moment où nos premiers ancêtres décident de désobéir à Dieu et de faire leur chemin, de prendre la voie de la mauvaise autonomie où ils sont Dieu pour eux-mêmes, ils sont centrés sur eux-mêmes, ils deviennent le centre de leur propre vie. Jusque-là, il nous est dit qu'ils n'étaient pas conscients d'eux-mêmes. Ils étaient conscients d'exister, ils pouvaient penser. Mais ils n'étaient pas conscients, alors c'est symbolisé par la nudité. Donc ils n'avaient pas peur d'être qui ils étaient, ils n'avaient pas peur d'être en relation l'un avec l'autre. Adam et Ève, entre eux, n'avaient pas peur l'un de l'autre, et ils n'avaient pas peur de Dieu. Et puis, ils n'avaient peur de rien dans le jardin. C'était du vrai, même pas peur. En fait, ils ne savaient pas ce qu'était la peur. Un peu comme les Vikings dans Astérix chez les Vikings. plus de mal que de peur. Mais là, à partir du moment où ils deviennent leur propre centre de gravité, le relationnel explose, la relation avec l'homme et Dieu explose, et la relation entre l'homme et la femme explose. Hein. Et donc, c'est un jour comme les autres. Dieu vient faire son petit tour du soir pour prendre l'apéro avec Adam et Ève, apéro vegan, bien sûr, hein, à cette époque-là. Et puis, ils vont se boire quelques jus de fruits, et puis, etc. Sauf que ce soir-là, Adam et Ève ne se pointent pas pour l'apéro. Et puis, Dieu les appelle dans le jardin. Et puis, il les trouve bizarrement accoutrés de feuilles de figuier. Je dis toujours, on espère que ce n'était pas l'automne, parce que sinon, c'est gênant. Ça craque. Qu'est-ce que vous faites ? J'ai entendu ta voix et j'ai eu peur parce que je suis nu. Et ça, c'est la mère de toutes nos peurs. Hein. Ça commence là. Et c'est terrible parce que c'est une peur de la seule personne qui ne nous fera jamais de tort. Si tout d'un coup ils avaient dit « Ah, on a eu peur parce qu'en fait on ne savait pas dans le jardin, mais il y avait des lions et les lions ça mange les gens, on a peur des lions ». Ou je ne sais pas, on est monté en haut d'un arbre, on est resté coincé, puis on a eu peur de tomber. Non, non. Ils avaient peur de Dieu, hein, parce que la relation était coupée, la culpabilité venait d'arriver. Et donc la culpabilité et la peur peuvent être très liées. On n'est pas toujours coupable d'avoir peur, hein, même, mais ça peut être le cas. Et là, à partir de là, tout ce qui est lié aux peurs relationnelles est devenu un héritage pour les humains plus fort que la peur du loup ou la peur du noir ou la peur de je ne sais pas quoi. Parce que dans notre vie relationnelle, tout est source de peur. J'ai peur que les autres découvrent que je ne suis pas celui que j'aimerais être, ou celui qu'ils imaginent être, ou celui que je prétends être, peu importe le cas de figure, hein, mais j'ai peur, parce que peut-être ils vont s'apercevoir que je ne suis pas à la hauteur, que je ne suis pas capable, que je ne suis pas aussi bien, que je ne suis pas, peu importe. Hein. Et ça, c'est une peur qui est dramatique, parce que cette peur-là, elle empêche les gens d'être en vraie relation. On va me juger si on sait ça sur moi. On va me rejeter. Et ça nous amène, elles vont toutes ensemble, hein, dans ces peurs relationnelles, cette peur d'être abandonné, d'être rejeté, et on pourrait toutes les résumer à une seule, c'est la peur de ne pas être aimé ou de ne plus être aimé. Et ça vient de là au départ. Quoi. Alors nous évoluons avec toutes ces peurs. Celles qui sont rationnelles, on les met de côté, hein, heureusement. Il vaut mieux avoir peur quand on traverse une route, regarder les deux côtés. Mais toutes ces peurs, surtout dans le domaine relationnel, émotionnel, celles qui sont héritées. Hein, je trouvais ça incroyable quand il y a un groupe dans le village où je suis. Hein, t'es de ce village-ci, là, vous savez, ce genre de groupe. Et puis je m'y suis inscrit parce qu'une fois j'ai perdu mon chien, puis c'est là-dessus qu'on me disait où le trouver. Et il y a un campement de gitans qui s'est installé dans le village il y a quelque temps. Et le quart d'heure d'après, les commentaires qu'il y avait sur ce groupe, c'était sidérant. Attention, les hérissons vont disparaître. Les gitans mangent les hérissons, quoi. Ouais. Plein de choses comme ça. Mais les gens avaient peur, quoi. Mais des peurs. Alors. Il y a certaines choses qui peuvent être rationnelles, là encore, il faut être logique. Hein. Mais il y avait des choses qui étaient du niveau de « les loups sont là ». Quoi. Hein. Et puis voilà, c'est comme ça, c'est hérité, on le transmet, et puis dans chaque culture c'est différent, dans chaque endroit c'est différent, mais toutes ces peurs sont là et elles influencent notre comportement. Je suis en train, vous le savez, de faire le tour de tous les membres de notre famille spirituelle avec mon petit questionnaire, enfin, celui que Marc a fait. C'est très, 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 très intéressant. Je passe vraiment des super moments. J'apprends beaucoup de choses. Et je découvre qu'il y a des gens qui ont peur de venir dans ce local. Pas une peur panique, une phobie, mais ils ont peur. Parce que ça rappelle ça, ça ramène à ça, il y a ça, il y a le poids familial, il y a ci, il y a ça. Hein. Il y a des gens qui ont peur d'aller dans une région parce que Et après, je réfléchis, je dis, mais c'est pas surprenant, je suis comme ça. Hein. Sauf qu'ici, c'est pas ma culture d'enfance, donc je suis moins touché. Ça se passe ailleurs pour moi. Mais c'est la même chose. Donc, lorsque Christ vient, ben, bien sûr, il connaît les humains, hein, mieux que quiconque. Et c'est un sujet qu'il va beaucoup aborder, et j'aimerais m'arrêter sur un texte bien connu, dans Matthieu 6, où Jésus est en train d'enseigner les gens qui sont autour de lui, ses disciples, mais aussi les foules. Il parle à tout le monde. Hein. Et il leur dit ceci, Matthieu 6, 25. « C'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas. » Donc, inquiétude, peur, crainte, c'est la même chose. Hein. « En vous demandant qu'allons-nous manger ou boire, avec quoi allons-nous nous habiller ? La vie ne vaut-elle pas bien plus que la nourriture et le corps plus que les habits ? Voyez ces oiseaux qui volent dans les airs, ils ne sèment ni ne moissonnent, ils n'amassent pas de provisions dans des greniers, et votre Père céleste les nourrit. N'avez-vous pas bien plus de valeur qu'eux ? D'ailleurs, qui de vous peut, à force d'inquiétude, prolonger son existence ne serait-ce que de quelques instants ? Quant aux vêtements, pourquoi vous inquiétez à leur sujet ? Observez les lys sauvages, ils poussent sans se fatiguer à tisser des vêtements. Et je vous assure que le roi Salomon lui-même, dans toute sa gloire, n'a jamais été aussi bien vêtu que l'un d'eux. Si Dieu habille avec tant d'élégance la petite plante des champs qui est là aujourd'hui et qui demain sera jetée au feu, à plus forte raison ne vous vêtira-t-il pas vous-même ? Votre foi est encore bien petite. Ne vous inquiétez donc pas et ne dites pas que mangerons-nous, que boirons-nous, avec quoi nous habillerons-nous. Toutes ces choses, les païens s'en préoccupent sans cesse, mais votre Père qui est aux cieux sait que vous en avez besoin. Faites donc du règne de Dieu et de ce qui est juste à vos yeux votre préoccupation première, et toutes ces choses vous seront données en plus. Ne vous inquiétez pas pour le lendemain se souciera de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. Je vais lire encore d'autres textes, mais celui-là est important. Alors, il faut quand même rappeler une chose. Jésus parle à des gens qui vivent dans une culture, je ne dirais pas que c'est l'équivalent de la Suisse aujourd'hui, mais c'était quand même un endroit, la société qui était organisée d'après les lois de Moïse, qui était un bon endroit pour vivre par rapport au reste de la terre à cette époque. Ce passage ne veut pas dire qu'il n'y a pas des gens qui manquent de vêtements ou qui meurent de faim sur terre, hein, malheureusement, à cause de l'égoïsme des êtres humains, de leur méchanceté, de l'injustice, etc. Il y a des gens aujourd'hui que Dieu aime et qui meurent de faim et qui manquent de vêtements. Donc, il ne faut pas utiliser ce texte pour dire « j'ai pas à m'occuper des pauvres sur la planète, Dieu a dit qu'il s'occupait d'eux, puis ben, s'ils meurent de faim, c'est qu'ils n'ont pas la foi ou je ne sais pas quoi, ils n'avaient qu'à pas naître dans le bon pays ». C'est un autre sujet qui est très intéressant, qu'on abordera une autre fois, peut-être avec un invité, quelqu'un qui s'occupe de Stop Pauvreté, qu'on aimerait inviter. Mais là, ici, il parle à des gens, c'est un peu comme si on disait en Suisse à des gens qui ont toujours peur de mourir de faim. Écoutez, oui, il y a des pauvres et des riches en Suisse. On ne meurt pas de faim en Suisse aujourd'hui. Il y a des moments difficiles. Il y a des gens qui ont fait dans des files d'attente quand il y avait le Covid. On a vu ça, hein, parce qu'ils n'ont pas les papiers. Mais on a ce qu'il faut, quand même. Hein. Et puis, Dieu prend soin de nous aussi, c'est vrai, en tant qu'enfant de Dieu. Mais surtout, ce qui est important, là, c'est qu'il dit... Qui de vous, par ses inquiétudes, peut rajouter une minute à la durée de sa vie ? Et c'est là-dessus que je voudrais m'arrêter, c'est qu'en fait, la peur, les inquiétudes, les craintes, non seulement elles sont irrationnelles, mais elles servent à rien, et j'ai écarté les vraies peurs intelligentes. Parce que elles changent rien à la situation. De m'inquiéter pour demain ne rend pas meilleur demain. Mais par contre, ça fait une chose terrible, ça me vole aujourd'hui. Or, demain n'existe pas. Quand ça sera demain, ça existera, ça sera aujourd'hui. De la même façon que hier n'existe plus. Alors oui, je traîne mon passé, mes blessures, mes histoires, mes bonnes choses. Mais la seule vraie réalité, c'est maintenant, le moment présent. Et les peurs et les craintes... sont là pour nous voler notre présent. Et c'est paradoxal de voir que les gens qui ont tellement peur de demain, et donc qui veulent tout contrôler, et tout prévoir, et tout essayer d'assurer, échange un demain irréel contre un présent réel, et puis ils perdent. Et quand je dis les gens, c'est moi très souvent, hein. C'est chacun d'entre nous chaque fois qu'on vit comme ça. Dans Pierre, la première épître de Pierre, chapitre 5, verset 7, il y a ce petit texte qui est intéressant. « Déchargez-vous sur Christ de tous vos soucis, car il prend soin de vous. Ne vous laissez pas distraire, soyez vigilants. Votre adversaire, le diable, rôde autour de vous comme un lion rugissant qui cherche quelqu'un à dévorer. Résistez-lui en demeurant ferme dans la foi. » J'aime beaucoup on a le privilège aujourd'hui d'avoir de magnifiques reportages animaliers, j'aime beaucoup en regarder. Et y a toutes ces scènes où les grands carnivores, hein, les lions, tous ces machins-là, chassent. Et en fait, ils chassent des animaux en général en troupeau, hein. Et quel est leur but ? C'est de faire peur pour qu'il y en ait un qui s'éloigne du troupeau, quoi. Puis celui qui est tout seul, il se fait manger, quoi. Pierre nous dit « Votre ennemi, le diable, rôde comme un lion rugissant. » Je ne dis pas que le diable et le mal n'ont pas de pouvoir sur cette terre, ils en ont. Mais très souvent, ce n'est pas un vrai pouvoir. C'est un pouvoir subjectif. Et il y a aussi, c'est un autre sujet encore, hein, je n'ai jamais tout abordé en même temps, mais il y a un pouvoir totalement subjectif qui est de nous faire peur, et par la peur, nous détacher, alors je ne parle pas du troupeau là, ici, de l'église, de la communauté, ce n'est pas ça, mais nous détacher de la confiance en Christ. Hein, parce que je n'ai pas encore commencé d'en parler, mais ça arrive, parce que c'est forcément le but. L'antidote de la peur, c'est quoi ? C'est la confiance. La confiance, la foi, c'est la même chose, hein, c'est le même mot. L'antidote de la peur, c'est la confiance. Plus on lutte contre les peurs, juste si je me dis il faut pas avoir peur, je me fais de plus en plus peur. Hein. Et donc, on s'aperçoit que ce lion rugissant, qui peuvent être toutes ces pensées d'inquiétude qui nous tournent autour, ça peut être des voix réelles, hein, des gens qui nous disent « Mais c'est pas raisonnable ce que tu fais, mais tu te rends compte, oh, mais tu fais ça, mais tu vois. » Toutes ces voix-là, qu'elles soient intérieures ou qu'elles soient réelles à l'extérieur, pas de guitare à casser aujourd'hui, je casse un micro. Elles sont là pour nous faire sortir de l'endroit où nous sommes, pas à l'abri de tout. Hein. Christ n'a jamais promis que tout irait bien. Mais il nous a dit qu'on pouvait lui faire confiance dans toutes nos situations. C'est très différent. Hein. Parce qu'effectivement, si on avait un message qui dise « Ayez la foi, vous n'aurez plus de problème », d'abord, on voit vite que ça ne marche pas. Puis on serait des menteurs. Dieu n'a jamais dit ça. Il a dit, la vie, elle n'est pas facile, il y a des difficultés, il y a des problèmes, on tombe malade, on meurt, on se fait abandonner, il y a des injustices. Ça, c'est la vie sur Terre, parce que c'est celle que les hommes ont créée, en devenant autonomes et en étant chacun indépendant vis-à-vis de Dieu. Mais dans toutes ces situations, dans toutes ces choses, vous pouvez me faire confiance, pas pour que ça n'arrive pas, mais parce que je serai avec vous. Je ne vous laisserai pas tomber. Je serai toujours avec vous. Et je vous accompagnerai. Et puis je vous porterai. Et puis, jusqu'à la dernière échéance, je serai avec vous. Et puis après, après ça ira encore mieux. Mais déjà pour aujourd'hui, ce n'est pas juste pour après. Hein. Et nous avons besoin de nous décharger sur lui pour à la place nous remplir de confiance. Vous connaissez cet exemple qu'on utilise souvent, hein. Pour vider l'air d'une bouteille ou d'un bocal, il faut soit une machine compliquée, soit on le remplit d'autre chose. Vous remplissez un verre d'eau et c'est une machine très simple pour qu'il n'y ait plus d'air dedans. Nous sommes des contenants. Si la peur m'habite, la peur est là. Je peux essayer d'exorciser mes peurs. Alors, il y a des choses qu'on peut faire, il y a un travail à faire sur soi-même dans certains domaines. Hein. Mais lorsque je suis rempli de la confiance et de l'amour de Dieu, il n'y a plus de place pour la peur dans ce moment-là. Ça ne veut pas dire que je deviens totalement irresponsable, que je ne m'inquiète pas légitimement pour des choses qui arrivent. Hein. Mais je parle de toutes ces choses qui n'arriveront jamais et qu'on imagine et qui détruisent notre présent. Dans le passage de Matthieu que j'ai lu, Jésus termine en disant « Le lendemain se souciera de lui-même, à chaque jour suffit sa peine. » Il y a une provision de grâce pour maintenant, il n'y en a pas pour demain. Hier, ben, c'est passé. Et si je me projette toujours dans demain, alors je ne vis plus aujourd'hui. Et puis, se projeter dans une situation dans laquelle on n'est pas, c'est malsain, parce que comme les provisions de Dieu sont au quotidien, je me projette dans une situation dans laquelle je ne suis pas encore, et en conséquence de ça, vu que je n'ai pas la provision aujourd'hui pour cette épreuve hypothétique, ben je panique. J'ai déjà cité cet exemple, mais ça m'avait frappé il y a très longtemps quand on a perdu un enfant. Et puis c'était l'épreuve, j'avais dit à Dieu que s'il faisait ça, je ne pouvais plus avoir confiance en lui. Mais ben voilà, j'ai découvert qu'au moment où j'étais dedans, Dieu me portait. Et à ce moment-là, on avait une famille qui était assez proche de nous, qui avait des enfants du même âge. Et quelques temps après, ils ont arrêté de venir à l'église, c'était une chose, mais surtout, on a essayé de les visiter. Puis ils ne voulaient plus entendre parler de Dieu. Parce que si Dieu n'était pas capable de s'occuper des enfants qui croyaient en lui, ce n'était pas la peine de croire en lui, ou il n'existait pas, ou il était méchant. Et en fait, le piège dans lequel ces gens étaient tombés, c'est qu'ils ont imaginé que c'était leur enfant qui était mort, puisqu'ils avaient un enfant du même âge, mais ils n'avaient pas la provision pour le vivre, ils n'y étaient pas. Ils ne savaient pas que, ben moi j'avais la même peur avant, hein, mais quand on le traverse, et je ne dis pas que c'était facile qu'on l'a traversé en chantant, mais c'est un des moments les plus forts de ma vie, où je savais, dans le moment, seconde après seconde, je ne peux même pas l'expliquer, j'étais vraiment dans les bras de Dieu, puis il m'a porté toute cette période. Hein. Mais ça, on ne peut pas le transmettre. Si je ne l'avais pas vécu, et j'aurais préféré ne pas le vivre, je ne l'aurais pas su. Par contre, j'ai appris cette chose-là, je refuse d'avoir peur pour une chose dans laquelle je ne suis pas encore. Parce que quand j'y serai, il y aura la grâce pour la traverser. Et ça me fait quand même peur, je suis humain. Hein. Mais j'ai appris cette chose-là, et puis je l'ai vu plusieurs autres fois dans ma vie, que ben, quand j'y serai, ça ne sera pas facile, hein, mais la provision existe, parce qu'il est avec moi chaque jour jusqu'à la fin du monde. Et en attendant, je peux m'y préparer comment? Au lieu d'essayer de tout contrôler, tout maîtriser, puis c'est de la folie, parce que c'est toujours ce que je n'ai pas prévu qui arrive. Hein. On s'assure pour ci, pour ça, pour ça, pour ça, pour ça, pour ça, et puis paf, ça arrive. Il y a une créativité dans le malheur qui est incroyable. Il peut toujours arriver dans un endroit où on ne l'a pas prévu. Hein. Il y a tellement de possibilités. Puis du coup, moi, j'ai passé des mois à gâcher mon présent pour essayer de tout contrôler, de tout maîtriser, de tout organiser, de tout assurer, de tout. Hein. Et puis, ça m'arrive par derrière, là où je ne l'avais pas vu venir. Puis tout le reste pour lequel j'ai tout organisé, bah, ça se passe bien. Hein. Ou pas. Mais voilà. Et donc, on doit apprendre à juste faire confiance à celui qui sait. Hein. Moi, j'ai tendance, j'ai pas tendance, c'est très fort. Si je suis pour un trajet en voiture, et c'est pas moi qui conduis, mais ne me demandez pas par où on est passé, j'en sais rien. Si la personne qui conduit sait où elle va, je vois même pas la route. Hein. J'ai confiance dans la personne, et puis c'est tout, ça me va bien. Après, d'autres fois, je suis avec certaines personnes et puis je regarde la route parce que j'ai peur, hein, parce que j'ai pas confiance dans cette personne, pour des raisons valables ou pas d'ailleurs. On pourra jamais tout prévoir, mais on connaît celui qui sait tout et qui peut tout. Encore une fois, pas dans le sens où il va tout nous éviter, hein, mais il sera avec nous. Et donc, c'est là qu'on peut faire quelque chose par rapport à nos peurs. Parce que même ma peur de la peur, je peux la lui apporter. Mais concrètement, pour qu'elle ne contrôle pas ma vie, pour qu'elle n'ait pas cet effet de lion rugissant, j'ai besoin d'être rempli. Et je termine avec un dernier texte dans un des livres, de mes livres préférés du Nouveau Testament, l'Épître de Jean, 1 Jean 4. Et ce chapitre est particulièrement beau. On ne peut pas tout le lire, mais il dit ceci au verset 16. Et nous avons connu l'amour que Dieu nous porte et nous y avons cru. Ça veut dire nous l'avons accepté, nous l'avons reçu en nous, pas juste croire qu'il existe, hein, nous l'avons accepté, nous y avons consenti. Dieu est amour, celui qui demeure dans l'amour demeure en Dieu et Dieu demeure en lui. Hein, il y a cette espèce de... On aime aujourd'hui, enfin, il y a une expression à la mode aujourd'hui qui est très belle, hein, le lâcher prise. Mais la Bible nous propose encore mieux, c'est pas juste lâcher prise, parce que des fois lâcher prise c'est dangereux, hein, n'est-ce pas Mathieu, quand on grimpe, lâcher prise ça peut être dangereux. Là c'est demeurer en lui et lui en nous. Hein. C'est la façon spirituelle de pratiquer le lâcher prise. Je suis en Dieu et Dieu est en moi. Et j'ai rien à tenir, j'ai rien à prouver, j'ai rien à expliquer. Et lorsque je suis dans cet état-là, dans ce moment-là expérimentalement, parce que Dieu m'aime toujours, mais je n'en suis pas toujours convaincu, je n'en suis pas toujours rempli, je ne suis pas toujours dans cette confiance-là, alors il n'y a plus de place pour la peur. Je reprends mon texte. Celui qui demeure dans l'amour demeure en Dieu et Dieu demeure en lui. Et voici pourquoi l'amour se manifeste pleinement parmi nous. C'est pour que nous ayons une entière assurance au jour du jugement. Et ça ne parle pas que du jugement dernier. Hein, tous les jugements vis-à-vis de moi, des autres, une pleine assurance. D'autant que notre situation dans ce monde est celle que Christ a connue lui-même. Dans l'amour, il n'y a pas de place pour la crainte, c'est verset 18. Car l'amour véritable chasse toute crainte. Et le mot pour chasser, là, il est très beau dans le texte original, c'est un mot qui veut dire littéralement expulser ou jeter au loin. Hein, quand on prend quelque chose et qu'on le jette très loin, quoi. Ou alors expulser, il n'y a plus de place. L'amour parfait, pardon, l'amour accompli, hein, parce que parfait, on a le sens qu'il faut qu'il soit parfait. Arriver à sa pleine maturité, dit Sommer, c'est la bonne traduction. L'amour arrivé à sa pleine maturité expulse la crainte. Donc, pas pleine maturité, là aussi, dans le sens « je suis complètement mûr », trop mûr, dans le sens où il s'est développé jusqu'à occuper toute la place disponible, hein, puisque la mesure de Dieu, c'est la plénitude, qui est une mesure intéressante parce qu'elle n'est pas intéressée par la taille du contenant. Le dé à coudre plein est aussi plein que la piscine pleine ou que l'océan plein, peu importe la taille, plein. Et Dieu veut nous remplir, que ma capacité ou mes besoins soient petits ou grands, en toute plénitude de son amour, et lorsque cet amour remplit ma vie, les peurs, pff, elles sont expulsées. Elles peuvent revenir, mais dans ce moment-là, elles n'y sont pas. Et dans ces moments-là, je vis au présent et j'apprécie chaque seconde de ce que je vis. C'est comme si tout, je vois tout comme avec une loupe et comme avec une lunette. Hein. Je vois une acuité de vision du présent qui est incroyable parce que, enfin, dans ce moment-là, je ne suis plus tyrannisé par mon passé, je ne suis plus volé par les craintes pour le futur. Je suis là, au présent, et je suis bien. Je suis repu. Je suis dans l'état du bébé qui vient de téter, qui est propre, qui est dans les bras de sa mère et qui est là et qui s'endort. Voilà. Et on peut vivre ces moments de satisfaction pleine en étant éveillé, là elle dormait, hein, parce que l'amour expulse toute crainte. Et je termine la fin du passage. La crainte suppose la perspective d'un châtiment. L'amour de celui qui vit dans la crainte n'est pas encore parvenu à sa pleine maturité. Quant à nous, nous aimons Dieu, pourquoi ? Parce qu'il nous a aimés le premier. C'est toujours lui qui prend l'initiative. Donc on n'a même pas à avoir peur de ne pas y arriver. Et il faut juste consentir à le recevoir. Il nous aime le premier. Et il nous aime toujours le premier. C'est cet amour premier qui vient de lui et qui demande qu'à nous remplir si nous y consentons. Parce que Dieu ne viole pas, ne force pas, ne rentre pas de force. Hein. Je me tiens à la porte et je frappe. C'est Jésus qui dit ça aux croyants, hein, par l'Esprit. Et si quelqu'un ouvre la porte, j'entrerai, je souperai avec lui et je remplirai sa maison intérieure d'amour. Et par voie de conséquence, les craintes, expulsées par les fenêtres ou par où vous voulez. Hein. Et tant qu'il est là-dedans, elles ne peuvent pas revenir. Et je termine avec ce dernier verset dans Luc 12. On a le parallèle de Matthieu 6 avec « Ne vous inquiétez pas ». Mais il y a cette très très beau, très belle petite phrase « Ne crains point, petit troupeau, car votre Père a trouvé bon de vous donner le royaume. » J'ai trouvé ça très beau. Ne crains point, petit troupeau. J'aime bien faire partie du petit troupeau où Jésus est le berger et qui me dit « Hey, n'aie pas peur, petit troupeau. Hein? Je vous amène pour vivre dans le royaume de Dieu. » Et ce n'est pas un royaume futur, hein? C'est maintenant le royaume de Dieu. Il est au milieu de vous, il est en nous. Et c'est quelque chose de magnifique. Alors, je ne pense pas que ce soit un état qu'on atteigne un jour, ça y est, j'ai plus peur de rien, hein? Même pas peur, non? Mais c'est pour chaque moment de nos vies, avoir cette conscience quand la peur veut prendre le contrôle. Hein? Et ça vient sous plein de formes. Hein? Des choses toutes simples, bonnes et naturelles. Hein? Moi qui ne sais pas compter, hier soir à minuit, je sortais mon chien et tout d'un coup, je commence à calculer quel âge j'aurais quand ma fille, la plus jeune, aurait 20 ans. Puis je commence à paniquer. Mais je serais trop vieux, mais comment... Puis d'un coup, au bout de 5 minutes, je dis, mais ça ne va pas. Pour quelle raison je me mettrais dans cet état-là à ne pas dormir parce que je serais peut-être déjà mort depuis longtemps, on sera peut-être tous au ciel, j'en sais rien, c'est fait... Yeah. Ouais. Alors oui, il peut y avoir des raisons, je suis plus âgé que quand, etc. Ouais. Mais non, Dieu est avec moi, il m'a conduit jusqu'à aujourd'hui, puis tout d'un coup, pouf, la paix revient. Et puis des fois, on part un jour, deux jours, trois jours, une semaine dans ce genre de trucs qui peuvent avoir au départ un semblant de raison, mais c'est juste la peur qui rugit, qui est là, et puis il y a cette voix qui vient, et puis ne crains pas, petit troupeau. Mon Père a trouvé bon de vous faire vivre dans son royaume. Et puis moi, je vous aime. Et puis je vous aime. Et puis je vous aime au présent. Et je veux vous remplir. Et tout d'un coup, c'est comme quand il fait noir et qu'on allume la lumière. Et tout ce qui nous faisait peur, là, ces ombres bizarres. Ah oui, c'était une chaise. Moi, je n'ai pas peur des chaises. Hein? Mais avant, c'était un monstre. C'était, je ne sais pas, un vampire, un truc, un assassin, un voleur. Ben non, c'était une chaise avec un manteau dessus. Et puis, une chaise avec un manteau dessus, j'ai pas peur. Et puis, l'amour de Dieu vient, il amène la lumière, il amène la vérité. Et puis, je reviens au présent et je vis et je suis bien. Seigneur, merci pour ta provision, pour ce que tu peux nous donner pour nos vies de chaque jour, pour cet amour que tu veux déverser en nous, pour que nous vivions... pas sans être raisonnable ou intelligent, mais sans peur irrationnelle qui détruise nos vies et qui détruise les autres. Merci parce que tu nous acceptes toujours, on peut toujours revenir à toi. On n'a pas peur d'être rejeté, de ne plus être aimé, c'est immuable. Et je te prie que pour chacune de nos vies, pour les vies de ceux qui nous entourent, pour notre vie ensemble, communautaire, pour tous les domaines de nos vies, nous puissions vivre au présent dans la conscience de ton amour en étant remplis de toi et sans être esclaves de la tyrannie de la peur. Être libre parce que ta vérité nous libère. Alors merci pour cela, Seigneur Dieu. Amen.